Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Sanctifié. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Demi-heure plus tard, Charles est sorti de la chambre tout joyeux. Il monte à Gilles un paquet de billets et un collier en or. Il lui fait un clin d'œil. Je me suis fait une petite prime. Tu as pris ce collier? Et alors, elle a eu du plaisir? Tout se paye? Tu me dégoûtes. Tu as de l'amitié pour moi? Laisse le collier et sortons. Charles Boudor pose le collier sur la table. Heureusement que tu ne me demandes pas de rendre l'argent. Gilles hausse ses épaules. Tu ferais bien aussi. Oh non, tout de même. Gilles le prend par la manche et lui dit « Allez, viens, sortons !» Et il quitte l'hôtel. Gilles se dit en lui-même, heureusement que je suis là. Charles boit beaucoup et ne fait rien pendant les soirées qu'il est avec Gilles. Cela agace Gilles. « Mais enfin, si tu ne travailles pas, comment auras-tu ton bac ?»« Je m'en fous de mon bac. De toute façon, qu'on l'ait ou non, c'est la même chose. Tout le monde est chômeur à la sortie de l'école. »
Vous l'avez entendu
quand il a de CM1, on lui pose des questions de CM1, CM2, CM2. Tu vas pas commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas pleurer.
Je vais commencer à me tromper.
Montre-moi, devant tes doigts là. Devant tes doigts. Voilà.
Charles et chez Gilles, ils ont travaillé 2 heures et pour se détendre, regardent la télévision dans la pièce commune. Ils sont tous deux assis sur un canapé. Gilles est légèrement penché en avant. Charles, pour lui montrer quelque chose sur l'écran, tend le bras et lui met la main sur le dos, sans y penser. Mais alors qu'il doit l'enlever, il se rend compte qu'il touche le dos de Gilles et que c'est bon. Il laisse la main sur le dos. Gilles ne réagit pas. Il caresse légèrement le dos, toujours rien. Et cela excite et échauffe Charles. Il lui caresse l'omoplate d'une façon bien marquée. Rien. Charles a de plus en plus chaud et il aime ce contact. En laissant la main sur l'omoplate, il lui caresse la nuque avec un doigt. Charles croit rêver. Voilà des mois qu'il rêve à cela. Puis, il met la main sur son bras et le lui presse. Je mettais la main sur ses cuisses. Gino se lève d'un coup. Soupire et dit il est temps de dormir et il ferme la télévision. L'enchantement est parti. Charles se lève. Bon, eh bien à demain. Oui, à demain. Gilles leur accompagne jusqu'à la sortie. Une fois dehors, le con, il se laisse faire. Il ne voit pas dans quel état cela met. Il n'est pas pédé. Cela le rend triste et il a le cafard. Arrivé devant la maison de ses parents, il voit sortir Véronique, la maîtresse de son père. Il trouve charmant cette petite jeune fille qu'il ne connaît pas. Et puis, pour calmer sa tristesse, il décide de l'accoster. Il a de la chance, elle vient de perdre un gant. Il le ramasse et accourt vers elle. Mademoiselle, vous avez perdu ceci. Oh, merci. Elle prend le gant. Je m'appelle Charles. Je m'en Véronique. Vous habitez dans le quartier? Elle hésite un peu et voit qu'il est bien jeune. Oui? Ah, pas bien loin. À 3 rues plus loin. Je peux vous accompagner? Le ciel est doux ce soir. Oui, je veux bien que vous m'accompagniez. arrivée devant chez elle, ils se sont presque rien dit. Mais elle a remarqué la coupe tailleur de son manteau. Vous voulez boire un verre chez moi? Oui, je veux bien. Et elle le fait rentrer. L'immeuble est grand standing. Le petit de pièce qu'elle habite, c'est le papa qui l'a acheté pour elle. Mais il ne le sait pas encore. Elle le fait entrer. C'est clair, grande baie vitrée, meubles modernes. Elle le fait asseoir au salon. Je vais me mettre à l'aise. Servez-vous à boire. Au salon se trouve un grand piano à queue et dessus une photo. Il va la voir. C'est celle de son père. Il crampe en tout et rit. Cela ne me gêne pas du tout de prendre la maîtresse de mon père. Elle revient en déshabillé japonais. Qui est-ce? Dit-il en lui montrant la photo. C'est mon père. Ah? Tiens. Il va vers elle. Il la prend par la taille d'une main et de l'autre entre les cuisses. Vous allez vite, vous. Les préliminaires, ce n'est pas mon fort. Il passe sa main sous le kimono et lui caresse le bas-ventre. Vous non plus, à ce que je vois. Vous n'avez rien sous votre kimono. Allons dans votre chambre. Nous serons plus tranquilles. Et puis c'est plus pratique. Et ils y vont. Sans qu'elle le voie, il a mis dans le cadre, sur la photo du père, une petite photo de lui. Lorsque le père va chez elle, il voit la photo. Cela le rend furieux. Qui est-ce ?
Oh, c'est mon petit frère.
Il la gifle. Tu te moques de moi?
Mais je t'assure.
Comment tu fais pour le rencontrer?
Ce n'est rien.
Et elle l'embrasse.
Rien du tout.
Tu l'as vu souvent?
Une fois.
Il faudra plus le revoir.
Je le promets.
En réalité, elle a follement envie de le revoir, car Charles est jeune, beau, et se débrouille assez bien en amour, c'est-à-dire mieux que ces messieurs d'un certain âge qui connaissent la mécanique, et c'est sans surprise. Ah, c'est à 20 ans que l'on fait le mieux l'amour, parce que l'on ne sait pas le faire, et que l'on s'y prend si délicieusement mal. Le père sait désormais qu'il a comme rival son propre fils. Il devient jaloux de son fils et le fils de son père. Le père, chaque fois que le fils sort, le surveille, le suit, lui donne de moins en moins d'argent. Quant à la fille, Elle ne sait pas qu'ils sont père et fils. Elle reçoit le père le lundi et le fils le mercredi après-midi. Elle a laissé la photo de Charles dans son cadre, mais lui a dit que son père à elle était furieux d'avoir vu une photo au-dessus de la sienne. Charles se dit, « Le vieux filou le sait donc, il doit mourir de rage, mais ne peut rien faire. » Malheureusement, quelquefois, Charles est obligé d'offrir quelques cadeaux à Véronique, ce qui lui fait des dépenses supplémentaires. La vente de la drogue ne lui suffit plus. Alors, une nuit, il se lève en pyjama. Et se dirige au bureau de son père. Quelques billets. C'est l'argent qui sert son père pour quelques petits frais. Malheureusement, Charles a fait un peu de bruit. Et comme le grand-père dort mal, ça l'a réveillé. Il s'est levé. Sort de sa chambre. Longe le couloir. Et là, il entend du bruit qui vient du bureau. Il entrebâille la porte et voit Charles prendre de l'argent. Le grand-père referme la porte. Et retourne se coucher. Matin, en sortant de sa chambre, Charles voit debout devant lui, chancelant sur une canne, robe de chambre bordeaux, le visage squelettique, son grand-père.
« Charles, j'ai des mots à te dire. Viens dans mon bureau. »
Charles suit le vieillard, droit, mais tremblant de tous ses membres, qu'il en fait trembler sa canne. Charles pense que c'est le fantôme de son grand-père. Le grand-père le fait rentrer dans son bureau. Ils sont tous deux au milieu de la pièce.
« Charles, j'ai beaucoup d'affection pour toi et je me fais beaucoup de soucis. Tu changes et en mal. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu dépenses trop. Tu es entré dans le système. Fais attention. Tu es capable de tout pour tes propres jouissances. Même de voler ta famille. »
« Mais qu'est-ce que vous racontez là, grand-père ?»«
Je sais ce que je dis. Il faut que tu retournes dans le droit chemin et en respectant et aimant ta famille. Tu vas rendre ce qui ne t'appartient pas, sinon tu seras à jamais perdu. Tu iras en enfer. »«
Vous êtes complètement fou !»
Ce qui ne t'appartient pas, sinon. »
Charles se tape la tempe. Le grand-père brandit sa canne. « Vieux con !» dit Charles, et il sort. François Xavier n'est pas satisfait de cette scène. C'était lui qui la faisait, et c'était un autre.
« Il a raison, je suis qu'un vieux con. »
Et il va s'asseoir dans un fauteuil. Un soir, après ses cours, Rosemarie, la sœur de Charles, rentre comme une furie. Et va s'enfermer dans sa chambre. Là, on l'entend hurler, jeter à terre des objets. La famille, apeurée, Charles et ses parents vont voir. La porte est fermée à clé. Mère demande «
Rosemarie, qu'es-tu ?»
Elle se met à crier
« J'en ai assez !» On drague, on couche et on se quitte. J'en ai marre. J'en ai marre.
L'on entend sangloter, puis hurler et jeter des choses à terre. Puis, plus rien. Paniqué, chacun se regarde. Charles dit, il faut enfoncer la porte. C'est ce que fait le père. Toile de la chambre est pleine de livres, bibelots cassés, robes jetées. Rosemarie, assise à terre, qui pleure les bras en sang. La mère s'approche de sa fille. Le père crie à Charles, « Téléphone vite au médecin !» La mère se penche, prend sa fille dans ses bras, qui pleure.
Ça va aller maintenant, ça va aller.
Elle la berce. Le père est allé chercher pour faire des pansements. Demi-heure plus tard, le médecin est venu, lui a fait une piqûre et a dit à la famille « Il faut qu'elle se repose un peu quelque temps. Je connais une maison, ou plutôt un établissement à Neuilly. » Le lendemain, en fin de matinée, dans un état demi-conscient à cause des médicaments, Rosemarie est menée à la clinique. L'oncle rit. Une fois qu'ils sont partis, seuls dans la maison, il dit
« Famille de tarés, ils termineront tous dans une maison. »
Charles a honte de la dispute qu'il a eue avec son grand-père. Il l'aime bien malgré tout, mais il n'ose pas aller s'excuser. Le grand-père souffre lui aussi de cette dispute. soir, Jules sonne chez Véronique. Elle lui ouvre. Il entre. Elle ferme la porte. Il va au salon, elle le suit. Ils sont tous deux au milieu de la pièce.
Tu n'enlèves pas ton manteau ?
Non, je suis juste passé te dire une chose. Voilà ma petite Véro. Puisque tu as une autre personne et que je ne supporte pas le partage, je te demande de choisir. C'est lui ou c'est moi ? Si c'est lui, il va de soi que je reprends l'appartement.
Mais tu es fou ! Que t'es-tu imaginé ? Il n'y a que toi qui compte, mon chéri.
Elle se pend à son cou.
Je t'aime. Regarde comme mon corps bat.
Elle lui met la main sur sa poitrine.
C'est par peur de te perdre.
Une demi-heure plus tard, elle reçoit Charles. Elle lui dit.
Écoute, j'ai bien réfléchi. Tu es gentil, mignon, mais je crois qu'il vaut mieux que l'on ne se voie plus. Tu comprends ? J'ai des obligations.
Oui, ton père.
Oui, mon père.
J'ai compris. Il te donne combien pour que tu restes avec lui ?
Tu n'es qu'un mufle. Tu feras mieux de t'en aller tout de suite, sinon tu vas tout gâcher.
Mais je m'en vais. Il la quitte, furieux. Et sonne chez Gilles. Gilles le mène dans sa chambre car la grand-mère est de retour. Il voit qu'il est de mauvaise humeur.
Qu'est-ce qui se passe ?
Tu sais, Véronique, elle ne veut plus me revoir. Je suis sûr que c'est un coup de mon père.
Ah, ce n'est que ça.
C'est une bonne chose que tu ne vois plus cette fille. Charles croit que Gilles était jaloux de la fille. Et puis, il y a eu la soirée devant la télévision. Le soir, dans son lit, il se dit « Si je ne l'aimais pas tant, je ferais le premier pas. » Mais non, il a l'air si pur. De Charles est dans le bureau de son mari. Elle a fait les comptes, puisque Jules ne s'occupe de plus rien.
Ce n'est pas très brillant. Nous risquons de manquer d'argent. Qu'allons-nous devenir ?
Qui écoute aux portes et lit le courrier de tous, connaît la situation. Cela le fait rire.
Ils sont tous pauvres. Ils vont être humiliés. Je vais bien rire.
À une soirée que la mère organise chez elle, l'oncle, pour une fois, y assiste. Il entend un homme d'à peu près 50 ans, grand, fort, les cheveux grisonnants, la tête sympathique avec ses yeux bleus. L'homme dira à un autre « La maîtresse de maison me plaît. Pour la voir, je ferai prêt à tout et même à payer très cher. » L'oncle rit sous cap et se dit « Prostituer la ma belle-sœur. Pourquoi pas ?» Il observe l'homme et attend qu'il soit seul. Une fois qu'il est seul, il s'approche de lui.
« Monsieur, je suis le beau-frère d'Irène d'Anteuil. J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Sur ma belle-sœur. »
L'homme rougit. L'oncle prend par le bras.
« Ne craignez rien. Vous disiez que vous étiez prêt à donner gros pour la voir. Eh bien, justement, ceci l'intéresse. »
Comment ?
Oui. Il ne me faudrait pas la prendre comme cela, bien sûr, comme une fille, mais comme une femme du monde.
Comment ?
Je sais qu'elle a besoin d'argent et de se venger de son mari, qui la trompe. Allez-y, essayez.
Et l'oncle se retire. L'homme reste indécis. Cherche du regard l'oncle. Ne le voit plus. Et cherche Irène. Il la voit.
Je tente le coup. On verra bien.
Il s'approche d'elle. Elle est seule.
Madame, je vous remercie de m'avoir invité.
Elle le regarde bien. Ne le reconnaît pas.
Philippe Souvereux. Ah oui, enchanté.
Je disais que j'étais très heureux de que vous m'ayez invité. Cela fait des mois que je souhaite vous rencontrer.
Et pourquoi cela? Si j'étais franc, je vous dirais que c'est parce que vous me plaisiez. Vous êtes encore un de ces séducteurs. Nous ne nous sommes jamais rencontrés et vous me trouvez séduisante comme ça.
Je vous ai vu, Galerie Saint-Albert.
Je n'y suis resté que quelques minutes.
Cela suffit. Je suis prêt à tout pour pouvoir partir avec vous en fin de semaine à Venise, même à dépenser une fortune.
Monsieur, je vous en prie.
Et il se retire.
Où tu vas ?
Je la raccompagne.
Bonsoir.
Le lendemain matin, elle reçoit un mot d'excuse avec un énorme bouquet de roses. Reine voit venir avec effroi les factures des fournisseurs. Jules, elle ne sait pas où il est. Elle doit se débattre seule. Un après-midi, épuisée de se débattre, Irène sort. Elle est démoralisée et se dit que c'est la faute à Jules, ce grand paresseux, ce grand coureur. Tout à coup, elle rencontre Philippe. Elle fait mine de ne pas le voir, mais lui la voit.
Madame Danteuil, quelle surprise! C'est plutôt à moi de le dire. Que faites-vous dans ma rue?
Je suis venu ici dans l'espoir de vous revoir.
Mais...
Oui.
Vous êtes pour moi la personne la plus exquise, la plus délicieuse. Oh, je vous en prie.
Si vous voulez, allons prendre le thé. Je connais un endroit charmant.
Vous ne pouvez pas me refuser cela.
Elle hésite et se dit, de toute façon, que prendre le thé. Et puis, Jules, ne fais pas tant d'histoires.
Bon, j'accepte.
Il sourit et la conduit. Dans le salon de thé, tout en buvant et mangeant des gâteaux, il lui refait sa proposition.
J'ai envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir. Dites oui. Qu'est-ce qui vous retient? La fidélité de votre mari? Venise, c'est bien, vous savez. Vous ferez ce que vous voudrez. Et puis, 600 000 francs. On peut en faire des choses.
Elle hésite. 600 000 francs, juste pour une fin de semaine.
De toute façon, Jules.
Elle a dit à sa famille qu'elle était invitée à passer une fin de semaine chez une amie. Personne n'a rien dit. Elle a fait ses valises un peu nerveusement. Et est partie en taxi pour la gare. Là, Philippe l'a attendu avec sa BMW rouge et ils sont partis. Elle est très nerveuse.
Ne soyez pas nerveuse.
Il lui met le bras sur l'épaule et frémit.
Je vous aime, vous savez.
Elle ne dit rien. Se sont arrêtés dans un petit restaurant. Il la fait boire, ce qui la détend. Elle se laisse prendre la main et baiser le cou. Elle le trouve bien et séduisant malgré tout. Arrivée à Venise, elle est complètement détendue et rit. Elle a l'impression d'être en vacances. Il a pris une chambre dans un luxueux hôtel avec un nom d'emprunt.
Bonjour, monsieur le professeur von Aschenbach. Au nom de la direction, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. La clé du professeur Aschenbach. Vite, vite. J'ose espérer que l'appartement qui vous a été réservé vous donnera entière satisfaction. L'hôtel est extrêmement tranquille. Ne vous tourmentez pas, monsieur le professeur. Ce sont les bagages du professeur Aschenbach. Votre balle, monsieur le professeur, on va la monter tout de suite dans votre chambre. Le temps est merveilleux en ce début de saison. Juste un rien de sirocco. J'espère que vous passerez d'agréables vacances.
Troisième étage, s'il vous plaît.
Si vous voulez bien me suivre.
Les 300.
Voici votre appartement. Après vous. J'espère que vous aimez les fleurs. Pressons le bagage du professeur Schoenbach. Vite! Nous vous avons réservé le meilleur appartement de l'hôtel. Je suis sûr que vous vous y plairez, monsieur le professeur. Andiamo su. Presto. Vous avez une vue splendide sur la mer de votre balcon. Le temps a été un peu couvert aujourd'hui, mais il fera très beau demain. J'oubliais de vous dire que vous pouvez disposer à votre gré d'une cabine de l'établissement de bain dont notre hôtel est propriétaire. Voilà, à votre Merci. Disposition s'il vous faut quoi que ce soit, Merci. Monsieur le professeur. Ah, votre clé, monsieur le professeur, le 308, je la dépose là. Mes respects, monsieur le professeur.
Puis, ils se sont promenés la main dans la main au soleil couchant sur la plage. Sont allés se changer pour aller au casino. Il lui a donné quelques plaques pour qu'elle joue.
Bonsoir. Viens, vente-le. 5, rouge. 5, 5. Je crois que c'est à vous, mademoiselle.
Elle a tout perdu, mais s'est bien amusée. Puis, ils sont allés dans une boîte pour danser. Elle est fatiguée. Elle s'est assise. Lui a dansé avec une jeunette. Il la trouve charmante. Il est retourné vers Irène. Allez vous coucher, vous êtes fatigué. M'attendez pas, dormez. Elle a trouvé la chose un peu cavalière, mais elle était silence. Et puis, elle est allée se coucher. Le lendemain matin, il n'est toujours pas de retour. Elle demande, on lui dit qu'il a payé la chambre et est parti. Furieuse, il a dû partir avec la jeune pimbèche. Fait ses valises. Quitte l'hôtel. Elle n'a pas eu son chèque. Tout cela pour rien. Désemparée, humiliée, déshonorée. Regarde l'argent qui lui reste. Elle a juste de quoi se payer le retour. rentre chez elle le dimanche après-midi, épuisée, humiliée, vieillie. L'oncle l'a vue entrer et rit. Elle monte à sa chambre. Se déshabille et se couche. Avec sur sa table de nuit, une bouteille de scotch. Charles est dans les WC du lycée, dans sa poche une dose d'herbe. Il cherche à qui en vendre. Tout à coup, il voit arriver à lui le pion. Il prend au cou et le plaque contre le mur. Il a un couteau à cran d'arrêt qu'il met sur la poitrine de Charles. Je sais que tu en as. Lâchez-moi. Non, si tu n'es pas sage, je te dénoncerai au proviseur qui portera plainte contre toi à la police. Non, lâchez-moi. Alors, tu es sage ou je crie? Ils viendront m'aider et te fouilleront. Charles panique. Il fait oui de la tête. C'est bien ça. Il pousse Charles dans un WC avec lui. Il ferme la porte. Il lui tire les cheveux en arrière pour lui maintenir la tête. Tu me plais, toi, tu me plais. Et il l'embrasse sur les lèvres. Puis, il lui descend la braguette et le déculotte. Il le suce en lui caressant d'une main les fesses et de l'autre les couilles. Vingt minutes plus tard, ils sortent du WC. Intérêt à la boucler. Charles se sauve en courant. Humilié, la rage au corps, il court chez Gilles. C'est Gilles qui lui ouvre. La grand-mère est absente. Il voit Charles, la mi-défaite, les yeux hagards. Une fois rentré, Charles court à la chambre. Gilles le retrouve allongé sur le lit. Qu'est-ce que tu as ? Viens. Gilles s'allonge près de lui. Qu'est-ce que tu as? J'ai pas envie d'en parler. Charles se blottit contre lui. Je veux toujours rester ainsi, dit-il. Et Charles s'endort. Une heure plus tard, il est parti. Mmh. Malheureusement, Charles ne peut pas se passer de drogue, d'argent et de Sandrine. Deux jours plus tard, il retourne voir Quentin pour prendre de l'herbe pour la vendre. Pour lui, ça ne suffit plus. Il se pique. C'est Sandrine qui lui a appris. Pour ce qui est de ses études, Charles ne fait plus rien. Il a maigri, mange très peu, boit beaucoup de bière et a le regard vague. Passe son temps chez Gilles, Quentin, et chez ses parents, il reste enfermé dans sa chambre sous prétexte de réviser. Dans sa chambre, il ne fait rien. Il dort. La mère aussi passe beaucoup de temps dans sa chambre à boire. Le père est de plus souvent absent. La sœur est en cure de sommeil. L'oncle, lui, rit. Quant au grand-père, il se terre comme une bête blessée. Dans son bureau, il souffre de plus en plus souvent, mais tient à rester debout.
Je tiens, et je sais que ce sera bientôt la fin. Veux rester un homme jusqu'au bout. Pas un légume dans un laboratoire, au milieu de machines. Non, je ne veux pas. Je veux rester un homme jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oh, Charles, Charles, c'est aussi pour toi que je le fais, mon petit.
Vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Sanctifié, dont c'était la cinquième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement.